Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Au début du mois d'octobre, notre productrice Alice Babin lance un appel à témoignages sur les réseaux sociaux et par SMS. Ça arrive parfois qu'on trouve comme ça les histoires, mais pas toujours, enfin il n'y a pas de règle. En tout cas, le message est ainsi rédigé. Pour un projet radio, je suis à la recherche de personnes qui, peu importe l'âge, quelque part en France, attendent ou auraient attendu un amant ou une amante déjà engagée et souhaiteraient me confier leur histoire d'attente et leur histoire d'amour. Sujet sensible, mais oreille sensible aussi, à la vôtre, et elle finit avec un émoji en forme de cœur. C'est ce sujet qu'on entend aujourd'hui, des histoires de maîtresses et d'hommes mariés, ou d'amants et de femmes en couple, de cachettes et de frustrations, d'attentes vaines, que l'autre se libère, quitte femme, mari et enfant. Des histoires qui durent comme ça des années, toute une vie, à être l'autre, le ou la troisième. À son appel à témoigner, comme on s'en doutait, Alice Babin a reçu de nombreuses réponses, toutes touchantes et sur le fil. Des histoires incroyables, des aventures plus ou moins gaies, des passades, des drames, des existences racornies, raccourcies, diminuées et rongées de solitude ou de dépit. Mais curieusement, alors que vous et moi, on en connaît au moins 5 chacun de gars qui aiment en douce une femme mariée ou une jeune fille promise, à commencer par ce pauvre Werther qui souffre beaucoup, se ronge délicieusement de cette impossibilité, curieusement, ce sont uniquement des femmes qui ont répondu à Alice Babin. Aucun homme n'a eu envie de raconter comment on se sent minable quand on est un amour de seconde zone, un sans-papier du couple. On en tirera les conclusions qu'on voudra, peut-être même que cela ne signifie pas grand-chose, mais ça nous a tout de même étonnés. Ça s'appelle donc aujourd'hui « L'attente des femmes », un titre emprunté au chef-d'œuvre de Bergman que je vous recommande au plus haut point. Elles ont 25, 55 et 93 ans, trois histoires d'amour à moitié par Alice Babin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans. J'ai rencontré François, j'avais 18 ans. Je venais de passer mon bac, je commençais mes études. C'est un de mes professeurs principaux, je le vois donc toutes les semaines, régulièrement. C'est un prof qui est très sympa, qui fait souvent des blagues, avec qui on a une relation plutôt amicale. Donc on a le numéro de téléphone aussi de nos professeurs, et donc j'ai le numéro de François, j'ai son mail, enfin il nous arrive de communiquer en dehors de nos cours, quoi. Et à la fin de ma première année de fac, je fais un stage dans une autre ville. Et il se trouve que mon maître de stage a fait la même fac que moi, et donc était élève de François il y a des années. Et donc je lui envoie un mail pour lui dire... je suis avec un tel, il te passe le bonjour, je sais pas si tu te souviens de lui. Puis j'en profite pour parler de mon stage en disant que je suis contente, nanana. Et en fait, il me répond comme si on était potes. Dans son mail, je me souviens d'un effet, quand je le lis, ce mail me dit il est jaloux de mon maître de stage. Et je ressens dans ses mails une espèce de drague, ou en tout cas une caresse, un truc... On échange plusieurs mails et il y en a un où il me dit que je suis jolie. Et je trouve ça très bizarre et je suis très mal à l'aise. Parce qu'il a presque 30 ans de plus que moi, qu'il est marié, que c'est mon professeur. Et je suis mal à l'aise et donc je réponds pas. Il y a l'été qui se passe... Et donc c'est la rentrée et je vais le revoir, donc, puisque c'est toujours mon professeur. Je vais encore passer une année en cours avec lui. Et j'attends ce moment où je vais le revoir parce que d'une certaine manière, l'excitation commence à arriver. Alors même que je le trouve plutôt moche, pas du tout attirant physiquement, je le trouve drôle, je le trouve sympa, mais je l'envisage pas du tout comme un amant ou quoi que ce soit. Donc j'arrive à la fac, c'est la rentrée, il y a une sorte de discours de certains professeurs et il est là. Et au moment où je le vois, je vis un coup de foudre. Et à partir de ce moment-là, je suis amoureuse de lui. Et je sais pas ce qui s'est passé. Et au moment où on se voit, il y a cette espèce d'éclair, et là, il me dit « pétasse ». Donc j'ai son numéro et je lui envoie un texto. De suite, je lui envoie « tu es vexée ». Et à partir de ce moment-là, on n'a pas arrêté de s'écrire. Et très vite, ça dérape, en fait. Il y a des allusions pseudo-sexuelles, des allusions de désir, de... À partir de ce jour-là, nos échanges ne sont plus professeur-élève, ce sont des échanges de deux personnes qui se séduisent, qui s'aiment très vite. On crée une adresse mail cachée, puisque se pose la question de sa femme. Il faut savoir que sa femme travaille dans une autre ville, elle exerce son métier, et elle rentre pour les week-ends ou les vacances, ou... Mais il y a quand même ses enfants qui sont petits à l'époque. Et donc, on se voit en dehors de la fac. Il passe me prendre en voiture et on va dans une ruelle un peu sombre. On arrête le moteur et on est ensemble. Et en fait, au début, c'est juste... on se serre dans les bras. Et petit à petit, on se touche. Et un jour, il m'invite chez lui, un soir. Il n'y a pas ni sa femme, ni ses enfants. Et on s'embrasse, et il est tard, et je lui dis qu'il va falloir que je dorme. Et il me dit, si tu veux, tu peux rester. Et je lui demande, mais on va dormir où? Sur le canapé ou Et il me dit, non, là-haut, monte. Donc dans la chambre conjugale. Et donc ce soir-là, pour la première fois... On a un rapport sexuel, on passe la nuit ensemble. Et quand je vais en cours le lendemain, je le vois parmi tous les étudiants, tous les gens de ma classe. Et moi, j'ai passé la nuit avec lui et personne ne le sait. Et en plus, on vit... Enfin, c'est pas juste j'ai passé la nuit avec lui, c'est je vais vivre une histoire dingue avec cet homme, je le sais. Donc on se voit beaucoup en semaine, mais le week-end, sa femme, elle rentre à la maison et j'ai pas le droit d'appeler. Des fois, lui, il m'appelle. Quand il trouve un moment pour faire les courses ou je sais pas quoi, il m'appelle en voiture. Mais moi, j'ai pas le droit de l'appeler. Soumise à son emploi du temps et surtout, en fait, à l'emploi du temps de sa femme, un peu. Et moi, je suis donc la maîtresse. Malheureusement, je ne suis pas totalement comblée parce que je ne l'ai pas comme j'aimerais l'avoir, qu'on ne sort jamais de chez lui ou de la voiture. Ça paraît un peu glauque, mais tous les moments qu'on passe ensemble, ils ne sont pas du tout glauques. Les nuits qu'on passe ensemble, même si c'est dans le lit de sa femme, que des fois, il y a les sous-vêtements de sa femme qui traînent dans la chambre, ou une photo d'eux sur la commode, des photos des enfants... Je me déplace dans leur maison, je me douche chez eux, enfin, je vis chez lui de temps en temps. Au moins un soir par semaine, on a cette nuit à nous deux, parce que ses enfants ne sont pas là ce soir-là, dorment chez les grands-parents. Et c'est notre moment à nous, et je suis sa femme pendant ces moments-là. Et tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, je souffre parce que je suis toute seule et qu'il n'est pas là, et puis on ne fait jamais rien d'autre ensemble que d'être cachés. Qu'on n'est jamais allé au resto ensemble, qu'on ne s'est jamais balayé dans la rue, je ne peux pas le présenter à mes amis, je ne connais pas les siens, enfin évidemment. Et j'en souffre beaucoup, et de toute façon, jamais de toute notre relation, il m'a dit qu'il allait quitter sa femme. Il m'a toujours dit, je ne pourrai jamais assumer d'être avec toi parce que tu as 30 ans de moins, tu pourrais être ma fille. Donc face à mes parents, ce n'est pas possible, face à mes amis, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai quand même envie de prendre mes propres décisions, faire mes choix pour ma vie, sans penser à ce qu'il va en penser ou sans l'intégrer dans le schéma. Et donc, j'ai envie de partir vivre à l'étranger pour cette troisième année d'études. Et donc, je décide de partir en Angleterre, en sachant bien que si je vis en Angleterre, on ne se verra plus tout le temps comme on se voyait. Donc ça fait un an qu'on vit cette histoire et je pars. Et tous les jours, on s'appelle. Moi, je suis à Londres. Et là, j'ai commencé à m'autoriser à être avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai rencontré quelqu'un en Angleterre. Et donc j'ai commencé à être en couple avec cette personne. Et c'était super chouette parce que les premiers réflexes pour moi, c'était « Waouh, c'est génial d'avoir un mec et de pouvoir lui prendre la main dans la rue et de pouvoir rencontrer ses amis. » Et c'est, évidemment, c'est normal, ça paraît bête, mais pour moi, c'était incroyable d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais faire des projets de voyage, le présenter à mes parents, à ma famille, à ma sœur, mes amis. Et pendant ces mois-là, justement, je coupe un peu les ponts avec François. Je lui dis que j'ai rencontré quelqu'un, que je crois que je suis amoureuse et qu'il peut m'offrir ce que lui ne m'a jamais offert et que je vais le vivre. Il m'en veut pas, sauf qu'au bout de quelques mois de relation avec ce garçon, je commence à trouver que bah, en fait, je suis pas aussi bien qu'avec François, je suis pas aussi bien dans ses bras, je me sens pas aussi comprise quand on parle. Il commence à beaucoup me manquer et en fait je recommence à l'appeler. À chaque fois, ça a été comme ça. Qu'importe le garçon, qu'importe l'histoire, je suis toujours revenue à François. Toujours, toujours. Mais au fil des années, on se voit de moins en moins. Et là, ce matin, on s'est vus et ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus. Il m'a dit, je serai là quelques jours. Du coup, peut-être que je pourrais me libérer quelques heures pour qu'on se voit. J'ai envie de voir comment c'est chez toi. Puisque je lui parle de, voilà, de l'appartement où je vis, etc. Et donc je lui dis, bah, tu peux venir. Et ce matin, il est arrivé chez moi. Bah, j'ai pas eu le coup de foudre comme les autres fois, cette fois-ci. Et malheureusement, moi, je sais pas faire semblant en vrai. Et je peux pas, par exemple, embrasser quelqu'un si j'ai aucune envie de l'embrasser. Bah, il se trouve que j'avais aucune envie de l'embrasser. Mais en fait, ça me rend super triste de plus ressentir ça pour lui, parce que c'était super beau. Du coup, j'ai fait en sorte que... Enfin, c'était trop bizarre. Je me suis fait un café, je lui propose de prendre un thé, quoi. Je l'ai installé dans mon salon, je lui ai montré ma chambre vite fait, parce que je lui ai montré mon appartement, mais... Et donc, je lui dis, c'était un peu court, une heure pour se retrouver, et il m'a répondu... C'est toujours court la dernière fois. Effectivement, c'était sans doute la dernière fois qu'on se voyait.
La tante, je l'ai connue avec Yvan, que j'ai connue il y a... quand j'étais assez jeune, je ne sais plus, 26 ans, 27. Je l'avais connu par l'intermédiaire d'une amie, m'avait invité quelquefois à sortir avec lui. Et puis, étant donné qu'il était extrêmement timide et renfermé, la communication passait pas forcément très bien. Moi, ça m'impressionnait un peu, lui aussi sans doute, ce qui fait qu'on savait pas trop quoi se dire. Et pour moi, la séduction, ça passe par la parole. Donc, et sur un malentendu, on s'est quitté. Voilà, donc il m'avait invité chez lui. Moi, je me sentais pas prête pour aller chez lui comme ça, tout de suite. J'ai refusé, et puis après, on s'est plus revus. Et ça a été un malentendu qui m'a poursuivi quand même pendant longtemps. Je m'étais dit, voilà, c'était un mec bien, il était sérieux. Il avait quelque chose en lui qui, je pense, m'intriguait et inconsciemment m'attirait. Et j'ai pas su le reconnaître à mon âge, j'étais sans doute pas mûre. Et les années ont passé, et puis à une époque, j'ai voulu quand même le... Je pensais à lui, et j'étais mal parce que je me souvenais plus de son nom. Et puis, voilà, au décès de ma mère, je suis retournée chez ma mère pour ranger des affaires. J'ai fouillé dans les placards, et j'ai retrouvé un journal intime, où là, au miracle, je retrouve son nom de famille. chose qui m'a complètement bouleversée. J'ai pas réfléchi longtemps, j'ai appelé les renseignements pour savoir s'il y avait ce nom-là dans le bottin. Effectivement, on m'a donné un numéro et j'ai appelé. Il y avait au moins 22 ans qui étaient passés. 22 ans, c'est énorme. Donc, j'étais fébrile, j'avais le cœur qui battait quand même, parce que je ne savais pas voilà, qui j'allais avoir au bout du fil. Et puis, incroyable, je l'ai eu au bout du fil direct. Et j'ai reconnu sa voix, une voix qui ne s'oublie pas, très belle, une voix lente, grave. Et on a parlé, je lui ai demandé s'il me reconnaissait. Ça n'a pas été concluant tout de suite, parce qu'il ne se souvenait plus trop de moi, en fait. Puis au bout d'un moment, il m'a reconnu, quoi, et s'en est suivi une conversation, 10 minutes, mais très intense. Il était marié, il avait des enfants, et voilà, et je suis pas... Ça m'a freinée, bien sûr, et puis, au fond de moi, j'avais très peur de le perdre à nouveau. C'est très curieux. Je ne voulais pas raccrocher, je n'y rêvais pas, c'était horrible. Et je sentais au fond de moi qu'il avait peut-être aussi envie de ne pas raccrocher non plus, mais en même temps, la bienséance, l'éducation fait que, voilà, un homme marié, ben, on s'arrête. Moi, j'étais pas mariée, donc... Et voilà, donc je lui ai dit au revoir, tout en lui laissant quand même mon numéro de téléphone, au cas où. Voilà. Et j'ai raccroché, en pleurs, j'étais pas bien, tout m'est remonté en mémoire, et voilà, je me disais, quel dommage que j'ai raté cet homme, quel dommage, je n'en pouvais plus de ça. Et donc, beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, une envie terrible de le voir, de le connaître, de parler avec lui, voilà, parler avec lui. Alors, j'ai eu le bonheur de l'entendre à nouveau, 5 jours après, il m'a rappelé. Voilà, il m'a laissé un message en me disant que... Il avait envie de me rencontrer aussi, qu'il ne fallait pas laisser passer le temps et qu'il était curieux de me revoir. On s'est revus. 22 ans après, ça fait... C'est vertigineux, quoi, parce que ça fait peur. Chacun a changé. Et là, on s'est vus, je l'ai reconnu. Je suis arrivée un peu en avance et je l'ai vu se recoiffer un peu fébrile. Et ça m'a touchée tellement. De voir ce petit geste tout bête de se remettre les cheveux pour me plaire, quoi. Ou pour se rassurer lui-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a totalement bouleversée. Je l'ai vu grand, très classique. Mais je l'ai trouvé, cette fois-ci, je ne sais pas, il me plaisait beaucoup, quoi. Et puis voilà, on est rentrés dans le café, assez circonspects l'un et l'autre. Mais on se regardait avec beaucoup d'intensité. Et à la fin... Quand on s'est dit au revoir, il m'a accompagné au métro et puis il ne parlait pas. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Est-ce que tu permets que je te rappelle ?» Et là, il m'a dit oui. Et quand il m'a dit oui, j'ai cru que j'allais exploser à l'intérieur. Tellement j'étais heureuse. Donc on s'est revus. On n'était pas plus à l'aise que ça, mais je me suis enhardie à lui demander « Est-ce que tu permets que je t'écrive ?» Et il m'avait donné son mail, voilà. Donc, je lui ai écrit très vite un mail le lendemain. Et à partir de là, on a commencé à échanger des mails. Et lui a tout de suite mis sur la table le fait d'être amant, en fait. Alors que moi, au fond, les gens peuvent ricaner, mais moi, c'était vraiment pour le connaître. J'ai encore un côté petite fille, peut-être, qui n'ose pas... s'avouer, peut-être qu'il y avait un désir évidemment plus grand. Donc pour moi, il était pas, j'avais pas pensé tout de suite à être amant, maîtresse, enfin. C'est lui qui a pensé tout de suite, pas moi. Ça fait une dizaine d'années qu'on se rencontre toutes les semaines. Mais c'est pas non plus tous les jours. On passe jamais de vacances ensemble, ni de week-end, ni de soirée, malheureusement. Je lui disais, je lui demandais si un jour on pourrait vivre ensemble. Il ne m'a jamais rien promis. Et moi, quelque part, j'espérais très très fort qu'il viendrait à moi d'une manière absolue. Et je me suis trompée, ce qui fait que j'étais dans une attente désespérée au fond de moi. Je m'imaginais des choses, qu'il viendrait frapper à ma porte un soir avec sa valise, enfin bon, des bêtises pareilles, mais bon, ça me venait à l'idée. Et puis, j'aimerais tellement voir des choses avec lui. C'est un homme cultivé, intelligent, et on rate énormément de choses. Mais moi, ça me rend dingue. Et au fond de moi, il y a toujours cette jeune fille qui bouillonne en moi et qui rêve de faire un vrai couple avec un homme que j'aime. Et cette attente, au bout d'un moment, il faut bien constater que c'est inutile, c'est vain. Et maintenant, c'est quand même une sorte de résignation. Et ça m'ennuie quand même, j'y pense. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et je n'arrive pas à faire autre chose. J'ai besoin d'aimer un homme, ça me plaît. Savoir qui va venir, quand je l'attends, je suis heureuse. Même si à une heure avant, j'ai pu le maudire, par moment. Par moment, je peux le maudire aussi. Je me parle toute seule en me disant, mais quelle connerie, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'en ai marre. Et puis savoir, même 5 minutes avant, savoir qui va venir, j'ai le cœur qui bat. Et quand il sonne, je suis heureuse qu'il vienne. C'est très très bizarre comme situation. C'est une situation à laquelle je ne m'habitue pas en fait. J'y pense tout le temps. Je n'ose pas exprimer la colère devant lui. C'est très étrange. Je la ravale souvent et c'est horrible. Bien sûr que je suis en colère. En colère qu'ils ne prennent pas de risque pour moi. En colère qu'ils ne fassent pas plus pour moi. C'est pas ce que j'espère de l'amour, quoi. Mon idéal, il est quand même bafoué, quoi.
Je suis Annette. J'approche du 4e âge. Au cours d'un déplacement, nous nous sommes croisés tout à fait par hasard dans un travail commun de 3 jours. Il ne s'est rien passé, sauf une amabilité, des sourires, voilà. Et puis, on a échangé nos numéros de téléphone. Et quelques jours après le retour, et donc une séparation que je pensais définitive, coup de téléphone, invitation à prendre un café, oui bien sûr, pourquoi pas. En acceptant ce café, je pensais vraiment pas à mal. Et puis d'un café à un autre, finalement nous avons découvert qu'on n'habitait pas si loin l'un de l'autre. Alors petit à petit, il s'est établi une espèce de covoiturage et nous avons partagé pendant, je peux le dire maintenant, des années, cette intimité de l'intérieur d'une voiture tout au long de la traversée de presque la moitié de Paris. Confidence après confidence, on s'est découvert les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt et c'est noué comme ça une espèce de complicité intellectuelle. On passait des heures à discuter. Et on s'est aperçu que finalement, c'était très fort. Et on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Je savais dès le début qu'il était très attaché à sa femme. Et il avait toujours dit qu'elle serait toujours prioritaire. Et qu'en aucun cas, il ne s'en séparerait. Finalement, ça a été long, environ 35 ans. Et puis vint le jour où, la vie étant déjà bien entamée, il fallut exécuter une promesse qu'il avait faite à sa femme, qui n'était pas française, de retourner dans son pays d'origine, où ils s'étaient rencontrés dans leur toute prime jeunesse, pendant qu'ils faisaient des études là-bas. Bon, évidemment, j'ai un peu mal pris la chose. Mais lui s'est justifié en disant que d'abord, il reviendrait le plus souvent possible en France, à Paris, et que ce serait l'occasion de vivre ensemble vraiment pendant ses séjours. Évidemment, c'était une excuse plutôt agréable à entendre. Et de toute façon, je n'avais pas le moyen de faire autrement. Il fallait trouver des raisons pour venir en France. Le fait de devoir suivre un traitement, enfin, mille inventions de ce genre. Mais effectivement, il est venu à peu près 3-4 fois par an à Paris, mais c'était déjà beaucoup. Alors il y avait évidemment le bonheur de l'arrivée, la tristesse du départ, mais on savait que ça reviendrait. Petit à petit, je dois dire que nous vivions absolument comme un vrai couple. Là, on n'avait pas besoin de se cacher de personne. On se donnait le droit de s'afficher auprès essentiellement de mes amis. En tout cas, ça a été la période la plus riche de ma vie, c'est sûr. Et jusqu'au bout de sa vie, puisque c'est lui qui a disparu en premier, donc nous avons été fidèles à l'idée que nous nous étions fait de cette amitié amoureuse. Parce que c'était loin d'être uniquement charnel, il y avait beaucoup d'autres choses qui pouvaient nous unir. Et puis, j'ai été amenée à rencontrer sa famille, femme, enfant, et devenir vraiment une grande amie pour tout le monde. Curieusement, ce n'était pas secret vis-à-vis de ses enfants qui, eux, étaient restés en France. J'ai continué à les fréquenter d'ailleurs, et bizarrement, je crois qu'ils n'ont jamais ressenti ma présence comme une insulte à leur mère. J'étais quelqu'un en plus. Aux yeux des autres, cette relation aurait pu paraître adultère, mais la façon innocente par laquelle elle a commencé fait que je ne me suis jamais sentie coupable. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And they all pretend they're orphans, and their memories like a train.
C'était La Tente des Femmes, un reportage d'Alice Babin réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Olga, à Camille et à Annette. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Camille Richir, c'est notre stagiaire.